Ça fait 30 ans que j'ai quitté la France, qui était ma terre d'asile pendant 14 ans. Donc ma langue française se détériore, se dégrade, je m'en excuse. J'espère que vous pourriez vivre, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. En deuxième lieu, je suis pas... Je n'ai pas d'expérience clinique avec des petits-enfants. J'étais pendant un demi-siècle psychanalyste d'adolescentes et d'adultes. Donc je suis quelque part étrangère au noyau de discussion d'aujourd'hui. Et je vais m'occuper de cette lecture un peu décentrée extérieure. De toute façon, il me semble une occasion extraordinaire. Étant la séparation entre la mère et les nourrissons, le travail psychique le plus important, le pas plus décisif dans la petite enfance, d'après ce que j'ai appris, que dans cette journée-là, on est pris dans la même situation, c'est-à-dire de parler de quelqu'un qui est définitivement absent de ce monde, de chez nous. Il est vrai que ce que je vais vous lire, c'est moi qui l'ai écrit, et je l'assume. Mais il serait plus vrai de vous affirmer que je suis plus en porte-parole qu'auteur, donc que ce que je vais vous lire, le texte que Victor Guerra m'a mandaté pour vous d'en parler, en sachant ou pas que sa présence physique manquera. En cercle d'amis, Victor Guerra se plaisait à relater la chronique, les romans ou mythes de ses origines, de sa lignée. J'essaye dans l'impossible d'être fidèle à ses paroles, même celui-ci qui s'en souvient déforme toujours. En effet, dans l'évocation du mythe de nos origines, nous ne sommes jamais fidèles et objectifs. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est certes une vraie fiction que Victor nous transmettait continuellement. Fils d'un émigrant italien qui, comme autant, est arrivé pour se faire l'Amérique, comme la plupart de nos parents et grands-parents. Le père de Victor lui était réservé d'arriver en Uruguay. J'ai dit que cela était réservé parce que dans la conjoncture de l'exil, difficilement on a l'occasion de choisir. C'est le hasard ou l'inespéré ce qui définit le destin. Le père de Victor a choisi pour s'installer le point le plus éloigné de la capitale de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, tout juste aux frontières avec le Brésil, où il a travaillé dans son épicerie, mais aussi comme petit contrebandier, une figure emblématique de notre histoire, los quileros, dans notre argot, ce qui transformait quelques kilos de yerba mate, du sucre, du feijão. Tout cela n'est bien évidemment pas un délit comparable au milliardo de Brecht. Ces tâches lui ont permis de réunir le capital nécessaire destiné à retourner à son village natal, là-bas, dans la lointaine Italie, pour choisir sa compagne, celle qui lui donnerait 4 enfants et retourner à former une famille à Montevideo, là où ils deviendront dans un quartier populaire des bolicheros. Nous sommes en Amérique latine, los pueblos nuevos, de peuples nouveaux, c'est la nomination qu'a trouvé l'anthropologue brésilien Darcy Ribeiro. Il fallait construire une identité nationale, sa sensibilité, ses imaginaires collectifs. Les nouveaux arrivés sont des pionniers. Les boliches, les pizzeries et les bistrots c'était pas simplement un commerce, c'était un point de rencontre. Il était comme le commerce, comme on le conçoit aujourd'hui. Il était le point de rencontre, l'usine où l'on fabrique les profils, les caractères, les caractéristiques d'une communauté inavouable, pour nommer le titre de Maurice Blanchot. Quileros et bolicheros ne sont pas un mot méprisant, sont une partie des fondateurs de notre identité comme pays. Comme il émerge de cette brève exposée, le père de Victor est un homme qui a des idées et des projets clairs et il est capable de les concrétiser par l'action. Un pionnier, un conquistador, c'était le mot que Freud utilisait pour se définir lui-même. On ne choisit pas là où on est, mais parfois on peut choisir où mourir. Vous relatez la trajectoire de Victor avec l'antécédent de cette figure paternelle, mais remplie d'interrogations plaisantes. Sans doute ça se relève dans son travail avec les enfants. C'est dans l'épicerie des quartiers que l'enfance et l'adolescence de notre protagoniste aujourd'hui s'est déroulée. Il aidait, il livrait, il s'est passé des heures avec des copains à jouer dans la rue. Ceci fait une partie importante de son éducation informelle. Au-delà de la famille et de l'école, Escuela Valeriana, on disait en espagnol, école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Chose importante aujourd'hui avec le retour impitoyable de religion dans la politique. Son éducation se complète avec sa bande de copains, source inépuisable d'une éducation informelle. Cela permet des frontières à la imposition qu'impose l'institution familiale et scolaire, autre signe relevant de son enfance montevidéenne. Un temps passé, mais qui laisse des traces profondes, tout en présente à un passé précurseur. Nous étions dans un contexte marqué par une grande mobilité sociale de notre pays et de toute l'Amérique latine dans la première moitié et au milieu du XXe siècle. Elle offrait aux émigrants compétents d'un dynamisme à toute épreuve. C'est donc avec le modèle paternel du self-made man, comme on dit, comme héritage qui se forge une disponibilité que le fils Victor accueille à bras ouverts. Il parcourt un long chemin d'épicier à psychologue pour se plonger dans la suite dans la clinique de tout petit. Ensuite, il devient clinicien et chercheur de pathologies infantiles sévères. Victor découvre et bâtit des pontes qui vont de l'observation des petits enfants à la crèche, avec des entrées vers l'expérience psychanalytique ou la poésie ou la littérature. Travail ardu, sueur et talent constitue le terrain de ce long et fécond itinéraire. Itinéraire pour moi émouvant. Son style particulier provoquait parmi ses collègues des réactions controversées ou divergentes. Beaucoup portaient un regard valorisant et admiratif, d'autres les condamnaient. Beaucoup de ses observations avec les nourrissons pouvaient avoir lieu dans l'ascenseur ou lors de rencontres informelles. Il était toujours en état d'alerte, soit au jardin d'enfants, soit dans l'analyse, soit dans le cabinet des psychanalystes, soit dans la pratique avec les éducatrices dans la crèche, en contact avec ses collègues. Comme une éponge, il s'appropriait des différents apports de ses prédécesseurs, qu'il valorisait parfois, même avec des éloges dithyrambiques. Il lui arrivait aussi de partager et de parler. Moi, j'avais écrit en espagnol, prédicar, je préfère ma traductrice a dit qu'il faut dire parler et pas prêcher, moi j'ai dit prêcher, de ce qui avait assimilé ses élèves, ses collègues et ses maîtres. Son enthousiasme provoque des effets, des miroirs. Je démarre cette mini-histoire de Victor Guerra, car son visage s'illuminait de fierté quand il la racontait. Je veux avec cela convoquer sa présence aujourd'hui, maintenant, ici. Et aussi parce que lui et moi, nous partageons la conviction de que la singularité d'un sujet n'est pas autogénérée, mais que nous sommes les fils de notre passé et les parents de notre futur, dans une dynamique sans pause ni intervalle. Il faut au moins 5 générations pour dessiner l'humanité d'un être humain. Nous sommes tous des sujets relationnels, pas enfermés dans nos pulsions, mais ouverts aux liens familiaux et aux codes culturels de notre temps et espace, avec les mandats et les interdits que la société impose. Avec une mémoire enviable et sa condition de lecteur insatiable, Victor ne recourait presque jamais au magister Dixit propre de la transmission religieuse. J'admirais sa manière de privilégier l'expérience sur les théories officielles consolidées. Il ne citait pas un auteur, aussi prestigieux qu'il soit, sinon en se référant à sa propre lecture, qu'elle provient de la psychanalyse, de la poésie ou de la littérature, comme une pièce opportune de son flux réflexif. La présence de Victor Guerra. Les Anglais disent « no seduction, no production ». Sans séduction, il n'y a pas de production. C'est valable pour la mère et son bébé, c'est valable aussi à l'université. En même temps que sa pensée, la gestualité expressive de son corps imprégnait l'idée et la température émotionnelle et affective de notre métier, dans notre métier, la transmission orale est aussi importante que l'écriture. Je ne vais pas édulcorer nos rapports avec seulement des expériences positives. Nous avons aussi eu nos divergences. Victor me reprochait un style qui privilégiait les arêtes catastrophiques et moi je le répliquais qu'il était trop louangère. Mais ces petits chamaillères n'étaient pas les condiments de notre amitié et nous amusions beaucoup dans nos débats. Dans la prématurité du nouveau-né, je voyais les angoisses d'annihilation de Melanie Klein, les agonies primitives de Winnicott, alors que Victor soulignait le plaisir de découvrir et de comprendre et de célébrer le monde avec un appétit insatiable. Comme Mozart, dans la plénitude de sa production professionnelle et amoureuse, il a été touché comme un éclair par une maladie d'une inusitée cruauté et prolongée agonie. Même ainsi, son legs tronqué ne restera pas en silence, car, en gratitude à sa généreuse amitié, un groupe de collègues, jeunes et pas trop jeunes, mais courageux, s'engage dans l'entreprise de compiler et publier son œuvre inachevée au moment de sa mort, et qui est précieuse. Cette continuité ou articulation entre leurs échanges communs et analytiques, il a été le pain quotidien. J'ai pu constater après sa mort que la vitalité de Victor Guerre était si forte qu'elle a dépassé les limites de sa présence physique. Les livres, aujourd'hui en édition, les colloques et les films que nous allons voir cet après-midi, tous ceux qui se présentent aujourd'hui sont la preuve de cette vitalité qui dépasse son absence. Ce qu'il a semé dans son travail créateur a fait, avec le gouvernail d'Alberto Konieczny, le travail de Carla Brass-Metzner, de Patricia Singer, de Laura Lang, de Claudia Ravera, de Jacqueline de Porto Alegre et beaucoup d'autres que je ne mentionne pas, qui ont pris la charge de cette vitalité qu'aujourd'hui nous accompagne au-delà du silence de sa mort.